Voilà, bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Je suis content que vous soyez là, que je sois là, avec cette belle journée. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, et l'autre jour, j'étais en contact avec les Portes Ouvertes. Vous connaissez cette organisation, n'est-ce pas, qui s'occupe des chrétiens persécutés, pour les inviter à venir, et on va en reparler, mais ils vont venir au mois de mai. Donc, ils vont venir à nous parler de nos frères et sœurs persécutés. Et ils m'ont dit qu'en Chine et en Afrique, et tout alentour des régions du tiers-monde, il y a des milliers de personnes qui ouvrent leur cœur au Seigneur Jésus. Et il y a des réveils partout. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Un réveil, c'est lorsque les églises y ressentent énormément leur état, y ressentent énormément la manquance du Seigneur. Et donc, ça pleure, ça prie, et c'est là que l'Esprit agit. Et je me suis demandé, mais pourquoi ici, en France, en Europe, dans l'Occident, il n'y a pas ce réveil-là. Pourquoi? Parce que on s'est détourné de Dieu. On s'est détourné de Dieu. On vit notre vie comme si tout était acquis. Hein? Ça y est, Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Je peux vivre comme je l'entends. Vous savez, les problèmes, encore une fois, c'est les péchés. C'est les péchés. Si nous avions seulement la même pensée que Dieu il a sur les péchés, nous réfléchissions beaucoup. Mais nous pensons que des péchés, bon, Jésus est là. Et vous savez, hein, ce matin en venant, j'étais sur la grande route, là, je crois que c'est avenue Grabière-Pelly, là. Tournant le Monoprix, l'avenue de la mairie, c'est quoi, avenue Gabriel-Péry. Hein. Il y a au moins 5 feux rouges. Hein. On avait un vélo devant nous, il les a tous grillés. Vous me direz, mais c'est quoi, griller un feu rouge? C'est péché. Péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Et griller en feu rouge, c'est transgresser la loi. C'est les péchés. Mais encore, un plus grand péché qui se vérifie aujourd'hui dans ce monde, c'est l'avortement. Depuis 46 ans, hein, qu'on a donné l'autorisation, soit en Amérique, mais surtout en Amérique. Il y a eu 58 millions de bébés qui ont été empêchés de venir au monde. 58 millions. Et vous savez, ce bébé, c'est Dieu qui les avait envoyés. Et pourtant, encore une fois, nous vivons notre propre vie tranquille. Nous pensons à nous-mêmes, mais nous ne pensons pas du tout à ce que Dieu il nous dit dans sa parole. Et vous savez, tous ces pays, tous ces gens, ils sont sous les jugements de Dieu. Ils sont sous les jugements de Dieu. Hein? Et tous ces gens-là, ils n'ont aucun espoir. Aucun espoir. Pourquoi? Parce que le seul espoir, c'est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme il a dit le frère, on vit dans un monde que la seule chose à laquelle on pense, c'est nous-mêmes. Moi d'abord. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a dit dans sa parole. Il faut aimer Dieu, mais notre prochain aussi. Et vous savez, tous ces gens-là, ils sont sous le jugement de Dieu. mais ils n'ont aucune conscience. Ils ne pensent pas à ce que le Seigneur Jésus il a dit. Jésus, il a dit, je reviendrai. Mais combien ils pensent à ces jours-là? Les jours, ils sont mauvais. On vit dans les derniers temps. On vit dans les derniers temps. On voit des signes partout. Paul, il nous l'a dit, dans les derniers temps, les gens, ils seront égoïstes, voleurs, adultères, méchants. Voilà. Et c'est la société d'aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons en tirer les conséquences, que nous sommes dans les derniers temps. Et encore, ces derniers temps, ils ont commencé lorsque le Seigneur Jésus, il est venu ici-bas. C'est déjà les derniers temps, parce que dans l'Épître aux Hébreux, c'est ça ce qu'il nous est dit. Hein? Que dans les derniers temps, Dieu, il nous a parlé à travers les prophètes, les visions, les songes. Et dans les derniers temps, il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Et Jésus, il nous l'a dit. Il nous l'a dit exactement. Je vais vous lire ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je m'en vais, mais je reviendrai. On est au dernier temps. On voit toutes les choses qui se passent dans ce monde. Et vous savez, les plus grands signes qui nous parlent, que nous sommes dans les derniers temps, c'est Israël. En 1948, cette nation qui n'existait pas, en un seul jour, elle a été reconnue. Et vous savez, ça c'est encore une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe l'a prédit. Qui a jamais entendu qu'en un seul jour, une nation puisse renaître? Et Israël, il a été déclaré nation. Pourquoi seulement Israël et pas les Babyloniens, les Grecs? Mais parce que c'est dans les plans de Dieu. Et Jésus, il nous en parlait de cela. Dans Matthieu 24, 32, je vais vous le lire, ce qu'il dit Jésus. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier, c'est l'emblème de la nation d'Israël. Si vous regardez les drapeaux d'Israël, il y a une feuille de figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le peuple d'Israël, il a été remis en action pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Et ça, c'est encore une prophétie. Lorsque la nation d'Israël, il a été déclarée, tous les Juifs, ils ont commencé à rentrer chez eux. Et c'est une prophétie dans Zacharie. Dans Zacharie, nous lisons, et il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays vers votre pays, Israël. » Beaucoup ils rigoleront lorsqu'ils lisent la parole de Dieu. Mais ça, sachons que c'est Dieu qui parle. Et c'est ça les signes que nous sommes à la fin de temps. C'est ça le signe que bientôt le Seigneur Jésus, il va revenir. Nous vivons maintenant et nous sommes proches de la fin. Et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous l'événement de Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque le Seigneur Jésus, il va revenir. Il est venu une fois, mais il va venir une seconde fois. Et la parole de Dieu, il nous dit deux choses à propos de l'avènement de Jésus-Christ. Qu'une première fois, il va venir dans les airs, et une deuxième fois, il va venir sur la terre. Ces deux événements distincts et séparés. Regardons, que se passera-t-il quand Jésus-Christ viendra dans les airs? Là, on a parlé ce matin, c'est notre espérance. C'est l'espérance de l'Église, que Jésus-Christ, il va revenir nous prendre. Comme on l'a lu tout à l'heure, hein, il y a beaucoup, dans ma maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais préparer une place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Qui c'est qui va prendre le Seigneur Jésus? C'est tous ceux qui lui ont ouvert les cœurs. Ceux qui lui ont fait confiance. Et Paul, il nous en parle. Dans Thessaloniciens, il dit quoi? Il dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Ça, c'est l'enlèvement. C'est notre espérance. Hein? Ne cherchez pas le mot enlèvement dans la Bible. Il n'y est pas. Mais l'enlèvement, dans la grecque, ça signifie, comme il dit ici, amener loin, rattraper. Et c'est ça que les seigneurs nous apprennent. Je vais vous préparer une place. Je viendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, quand il va se vérifier cela, quand le Seigneur lui-même, il n'envoie pas des anges, hein? C'est lui-même. Pourquoi est-ce que c'est lui-même qui vient nous prendre? Parce que Jésus, il nous a tellement aimés. Et il nous aime encore. Il nous a servi en donnant sa vie sur la croix. Et il va continuer, il est en train de nous servir aujourd'hui dans les cieux, en tant que souverain sacrificateur et en tant qu'avocat. Car lorsque nous péchons, lorsque nous tombons dans les péchés, Satan, il est là pour nous accuser. Voilà, Aldo, c'est ça un chrétien? Mais il y a Jésus, mon avocat. Vous savez, l'avocat, il est là pour défendre. C'est son rôle. Hein? Hein? C'est avocat. Il est avocat et consolateur en même temps. Voilà, il nous défend. Non, voilà, cette personne, il m'a ouvert son cœur. Il m'a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ce qui va se passer. Il nous sert encore. Il nous aime tellement. Son souhait, c'est que nous soyons avec lui. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et donc, il va venir lui-même. Il n'envoie personne d'autre. Lui-même, il va venir, il va s'arrêter dans les airs et il va appeler tous ceux qui lui appartiennent. Comme il est dit ici, premièrement ceux qui sont morts, et enterrés, ils vont être ressuscités. Et Dieu, il va leur donner ce corps merveilleux, ce corps de gloire vers lequel nous aspirons tous. Pas celui-là. Celui-là, c'est rien ce qu'on a maintenant. Hein? Pour ceux qui sont habitués à se regarder dans la glace, hein? Ça change chaque jour. Hein? Mais ce corps de gloire, ça sera comme celui de Jésus-Christ. Et c'est à l'enlèvement, lorsqu'il va attirer à lui ses enfants. Et justement, Paul il nous explique encore dans Corinthiens 15. Il dit d'abord à ceux qui sont morts. Ensuite, nous, les vivants. D'abord les morts, c'est normal. Et ensuite les vivants. Les vivants, ils seront transformés. Paul, il dit, nous les vivants. Il avait cette espérance d'être vivant lorsque le Seigneur, il reviendra. Et nous les vivants, nous serons changés. Il nous le dit dans Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un moment, en un clin d'œil. À la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, hein, et nous serons changés. C'est ce qui nous dit la Bible, la parole de Dieu. Mais ça, que ceux qui ont ouvert les cœurs à Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il va se produire cet événement? Personne ne le sait. Et Jésus lui-même nous l'a dit, hein, dans Matthieu 24, 36. Personne ne le sait, même pas les fils, sauf le Père. Voilà pourquoi il nous dit « veillez et priez ». Car c'est seulement ceux qui veillent en attendant cet événement. Et nous, chrétiens, c'est notre espérance. Avant de faire quoi que ce soit, des mauvais, des méchants, avant de commettre un péché, si nous disons, et si le Seigneur revient maintenant? Si nous pensions à ce retour, nous allons nous éloigner de cela. Cette pensée-là, il doit nous posséder. Nous posséder. Au lieu de penser à nous-mêmes, de penser que le Seigneur, il peut venir maintenant. Personne ne le sait quand. Lui-même, il a dit, je viendrai comme un voleur. Si vous saviez qu'à telle heure un voleur il va venir chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là avec un fusil, vous appelez la police, n'est-ce pas? Vous êtes prêt. Vous pouvez dormir jusqu'à cette heure-là. Après, vous savez que le voleur, il vient là, vous vous réveillez. Non, mais il faut veiller et prier, car personne, il connaît les jours et la date. Tous ceux qui mettent des dates, il y en a qui mettent des dates. Tous ces gens-là, ils sont des faux prophètes. Parce qu'ils disent des choses que Dieu il ne dit pas dans sa parole. Et une petite parenthèse, on va commencer le livre de Jude. Et Jude, il parle justement contre les faux enseignements, contre les faux prophètes d'aujourd'hui. Il dit dans les premiers versets, « J'aurais voulu vous parler du salut qui nous unit, mais je vais vous parler de tous ceux qui mélangent le salut de Dieu avec d'autres choses. » C'est ça que le Seigneur il nous dit. Avez-vous fait confiance à Jésus-Christ? C'est ça. C'est ça la seule question. Est-ce que Jésus il est dans votre cœur lorsqu'il va venir dans les airs? Il va vous appeler à lui. Vous serez ressuscité et vous aurez ce corps glorieux. Car si vous ne l'avez pas, Jésus, dans votre cœur, vous resterez ici-bas. Et après l'enlèvement et après le retour de Jésus-Christ, il va y avoir cette colère de Dieu qui va s'abattre ici-bas sur cette terre. Nous subirons, ceux qui resteront ici, les jugements de Dieu. Car vous savez, on est tous des pécheurs. Et on mérite la mort et les jugements de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est venu pour nous délivrer de cela. Voilà ce qui va se passer lorsque Jésus, il va venir dans les airs. Deuxième question, que se passera-t-il après la venue dans les airs? Voilà. Qu'est-ce qu'il va se passer après? Nous sommes enlevés. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, nous irons au paradis, nous irons avec notre Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez bien qu'est-ce que c'est que l'Église. On l'a vu même ce matin. C'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même, il nous le dit, Matthieu 25, 10, vous rappelez les 10 vierges. Ils attendaient l'époux. Il y en a 5 qu'ils avaient avec elles, ils avaient de l'huile, et 5 autres qui n'en avaient pas pris en réserve. L'époux, il a tardé, ou il est venu, personne ne savait quand il devait venir. Et à un certain moment, en l'attendant, les lumières se sont éteintes. Et nous a dit Jésus, il dit, l'époux est arrivé. Et ils entrèrent avec lui au mariage. C'est exactement la même chose qui va arriver à nous qui sommes des chrétiens. Nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il va se célébrer le mariage entre Jésus-Christ et nous, l'Église. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a déclaré. Hein? Et la Bible dit aussi dans Apocalypse 19, « Car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. » Son épouse, c'est nous, l'Église. Et il continue, « Il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. » Et l'ange me dit, « Écris ceci, heureux sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. » Et ça, c'est, encore une fois, c'est ce qui va se passer au ciel. Il a été donné du fin lin, des robes blanches. Mais pour recevoir ces robes blanches, il va se passer encore autre chose. Il va se passer le tribunal de Christ. C'est là que tous les chrétiens, ils seront jugés. Pas pour les saluts, parce que le salut, il est acquis en Jésus-Christ. Mais par rapport à ce que nous avons fait des biens. Avec ces dons que le Seigneur il nous a donnés, dans quelle façon nous les avons fait produire, de quelle façon nous les avons utilisés pour nous-mêmes ou pour la gloire du Seigneur, pour nous-mêmes ou fait pour le nom du Seigneur. Et c'est ça que Paul il nous le dit, hein. Il dit, car nous devons tous comparaître devant les sièges du jugement de Christ, afin que chacun reçoive, selon les choses accomplies, étant dans son corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien ou mal. Et ça, c'est le jugement des chrétiens. Encore une fois, pas pour les saluts, mais selon nos œuvres. Toutes les choses que nous avons faites, pour le Seigneur et en son nom. Et ces choses-là, ils seront récompensés. Le Seigneur, il donnera des couronnes. On appelle ça des couronnes. Et dans Apocalypse, il nous est dit que lorsque le Seigneur Jésus, il sera là, tous ceux qui ont des couronnes, ils les enlèveront et ils le mettront aux pieds de notre Seigneur et de notre Sauveur. Car lui seul est digne de recevoir toute couronne, tout honneur, toute gloire. Et c'est ça qu'il nous dit Paul. Et tout dépend de comment nous avons utilisé nos propres dons. Et ce jugement, c'est seulement pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, Jésus-Christ. Des fois, on fait des choses qui ne sont pas à l'honneur de Jésus-Christ, mais pour notre propre avantage. Et toutes ces choses-là, ils seront récompensés. Ou sinon, ils vont disparaître. On croit avoir fait des choses qui sont agréables au Seigneur. Mais Seigneur, nous avons fait des miracles. Nous avons fait ça, ça et ça pour toi. Le Seigneur, il leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette confiance dans le Seigneur. Et ici, il nous a dit, si un chrétien, il construit une vie fondée sur l'or, l'argent, hein, et des pierres précieuses, c'est les œuvres qui représentent les œuvres faites pour le Seigneur. Alors là, on recevra la récompense. Mais si on a fait des œuvres sur du bois, du foin ou du chaume, le travail sera brûlé. Ça ne servira à rien. Donc, voilà, il y aura les récompenses. Quelle récompense le Seigneur il donnera à ses enfants? Il y a la récompense. Vous savez, les récompenses, il les donne parce qu'il nous a dit, il y a un verset dans la Bible qui dit, votre travail, il ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il n'oublie pas. Voilà pourquoi il nous donne des récompenses. Et il le fera. Hein? Il nous donnera quoi? Ces récompenses. Et nous régnerons avec lui. Parce que nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Et si nous montrons notre fidélité au Seigneur, le Seigneur, il sera fidèle envers nous. Il y a cette parabole dans Matthieu 25. À ceux qui ont été fidèles, le Seigneur, il leur dit quoi? Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos que ton maître a préparé pour toi. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Il continue la parabole dans Luc. Hein? Il nous a dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses. Oui, parce que les choses que nous faisons, c'est rien. Mais je t'établirai sur beaucoup de choses. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. On dit, ah, je n'ai pas fait beaucoup. Mais le Seigneur, il sait pourquoi tu les as fait et au nom de qui tu les as fait. Et il va t'établir sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et à l'un, il dira, tu as l'autorité sur 5 villes. À l'autre, tu as autorité sur 10 villes. Tu as autorité... Voilà, ça c'est selon la capacité que chacun de nous. Mais tous, nous régnerons avec le Seigneur. C'est ça, la couronne du vainqueur. Et tout ça, ça va se passer dans le ciel. Il y a aussi des chrétiens qui seront récompensés par la souffrance. Oui, parce que la souffrance pour est dans le nom de Jésus-Christ. Tous les martyrs qui sont morts, tous les frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont martyrisés dans des pays où la parole de Dieu elle est proscrite, le Seigneur, il va récompenser tous ces gens. Parce que vous savez, la fidélité, on la montre beaucoup plus lorsqu'on pratique notre religion, notre croyance, lorsqu'il y a tout autour de nous des dangers, des périls, des souffrances, que lorsqu'on vit dans le monde dans lequel on vit, nous, surtout en Occident. Toute la vie est belle chez nous. La vie est belle. On fait ce qu'on veut. On dit, je suis chrétien, je dois aller à l'église, oh, je ne veux pas. Il y a un étudiant, oh, je ne veux pas. Je dois aider une frère et une sœur, oh non, je n'ai pas le temps. Nous faisons ce que nous voulons. Mais sachons que le Seigneur, à ce tribunal de Christ, il va nous rendre compte. Il va nous demander compte de comment nous avons agi. Et dans la souffrance, le Seigneur, il nous donnera des couronnes. Si nous avons pris sur nous l'opprobre de Jésus-Christ. C'est quoi l'opprobre? L'opprobre de Jésus-Christ, c'est prendre part aux souffrances. Jésus, il a été persécuté, on a craché sur lui, il a été humilié, et tout ça pour la volonté, pour la gloire de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, si nous subissons ces choses-là en son honneur, nous souffrons, nous avons l'opprobre de Jésus-Christ. Des gens, ils disent, ah, j'ai une croix, je suis malade. C'est l'opprobre de Jésus-Christ. Moïse, il a pris l'opprobre de Jésus-Christ. Il était fils du Pharaon et nous a dit qu'il a préféré être esclave que rester en tant que fils du Pharaon. La souffrance. Une autre couronne, il la donne à tous ceux qui auront amené des âmes au Seigneur Jésus. C'est-à-dire qui aura témoigné, qui aura prêché la bonne nouvelle, qui se sera laissé diriger par le Seigneur en toutes choses. Voilà pourquoi notre travail, c'est d'évangéliser, c'est d'apporter cette bonne nouvelle tout autour de nous. Et vous savez, lorsqu'on témoigne à quelqu'un, et ce quelqu'un se tourne vers le Seigneur, c'est ça que nous présenterons au Seigneur dans le ciel. Ce n'est pas nous qui l'avons sauvé. Il n'y a que le Seigneur qui sauve. Mais nous avons fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et ça, c'est quelque chose de très important. sauver une âme. Des gens, ils disent, vous savez ce qu'ils pensent de la Bible? Aujourd'hui, les gens, ils disent, ah, mais je suis quelqu'un de très intelligent, je suis sage, j'ai ça. Vous savez ce qu'il dit la Bible dans Proverbe? Sage est celui qui sauve une âme. Amener quelqu'un au Seigneur, c'est la sagesse même. Chaque fois que nous commençons, nous voulons faire quelque chose, nous demandons à Dieu, donne-nous la sagesse. Pour que nous puissions nous mettre à part et que nous puissions accomplir entièrement la volonté de Dieu. C'est ça le travail que nous devons faire. Et toutes ces récompenses, toutes ces couronnes, le Seigneur, il les donnera à tous ceux qui auront accompli sa volonté ici-bas. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Voulons-nous être récompensés par le Seigneur et pouvoir lui offrir quelque chose? Cette couronne qu'il nous a donnée, lui dire « Non Seigneur, je ne mérite pas, mais toi tu mérites et je te la donne. » Si nous ne faisons rien, nous n'aurons aucune récompense. Et qu'est-ce que vous aurez à offrir à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Parce que si vous êtes là au tribunal de Christ, c'est parce que vous êtes sauvé. Mais vous avez été sauvé comme à travers du feu. Voilà. Et on n'aura rien à donner au Seigneur. La troisième question qu'on peut se poser, que se passera-t-il quand Christ viendra sur la terre? Parce qu'on a vu qu'il vient premièrement dans les airs. Mais que se passera-t-il lorsqu'il viendra sur la terre? D'abord, il viendra pour sauver son peuple. Jérusalem, et établir son royaume. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Et il va revenir avec ses saints. Qui sont ses saints? Ses saints, c'est nous. Il nous est dit dans Zacharie, hein, d'abord dans Acte 1, vous vous en souvenez, lorsque le Seigneur il a été enlevé, les apôtres ils étaient là, le Seigneur était enlevé, il regardait. Et alors il y a un ange qui est venu. Il a dit, qu'est-ce que vous regardez? Il a dit, ce même Jésus que vous voyez maintenant s'en aller, il reviendra de la même façon. Et il est parti du mont des Oliviers. C'est de là qu'il est parti. Et nous lisons dans Zacharie, il dit, ses pieds se tiendront debout. Ce jour-là, sur le mont des Oliviers, alors le Seigneur, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Pour faire quoi? Pour instaurer le royaume. Et nous régnerons avec lui. Parce que nous sommes son épouse. Quelle est la place de l'épouse? C'est à côté de l'époux. Et le Seigneur, il nous a dit, vous êtes des rois. Sur quoi et sur qui nous allons régner, il ne le dit pas. Mais Dieu, il nous dit que nous sommes des rois. Donc, nous avons des endroits où nous allons régner. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et on régnera avec lui. C'est ça que le Seigneur nous dit lorsqu'il va revenir ici-bas. Et ça va être un royaume. Et tous, on sera là, tout autour de notre Seigneur et de notre Sauveur. Mais si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas ouvert votre cœur au Seigneur Jésus, toutes ces choses-là, vous ne les vivrez pas. Quand il reviendra dans les airs, vous ne serez pas enlevé, mais vous resterez ici-bas à subir la condamnation. Car, encore une fois, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes condamné en enfer. Et c'est vous qui l'avez choisi. Car Dieu, il souhaite que tous arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Dieu, il a écrit un livre de vie dans lequel tous, ils sont écrits. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils vont être effacés. On ne peut pas, même pas se faire effacer parce qu'on aime quelqu'un. Tiens, Seigneur, ma femme n'est pas sauvée et je prends sa place. Ah, on ne peut pas. Moïse, il voulait faire la même chose. et fasse-moi du livre de vie. Ah, il a dit non, non, on ne peut pas. C'est seulement ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur qui seront enlevés. Qu'est-ce qui passera par la suite au ciel? Il y aura les mariages de l'Église avec Jésus-Christ. Une fois qu'il a été purifié au tribunal de Christ, et c'est alors que le Fils, il nous présentera au Père, pur, sans tache, irrépréhensible. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsque une jeune fille, un garçon, ils se rencontrent, hein, normalement, on amène le jeune homme à la maison, on présente à son père, sa mère. C'est pareil, Jésus-Christ, il présente son épouse, sans tache ni ride. Et ensuite, que se passera-t-il quand il viendra sur la terre? Ça va être le royaume et nous allons régner avec lui. Mais c'est encore une fois, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, vous subirez la colère de Dieu. Ça, c'est un sujet de réflexion. Et il n'y a que vous qui pouvez répondre. Est-ce que suis-je en Jésus-Christ ou pas? Encore une fois, le jour qui va venir, on ne le sait pas. Mais une fois qu'il est venu, ça ne se répétera pas. Si on ne l'accepte pas dans cette vie, on sera grillé, comme on dit. Hein, au déluge, Noé, il a prêché 120 ans. Il le voyait construire une arche. Il n'avait jamais tombé de la pluie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai construit un bateau parce qu'il va y avoir le jugement. Quel bateau? Ils l'ont vu pendant 120 ans. Mais lorsque Dieu il a fermé la porte et l'eau il a commencé à tomber, je suis sûr, la Bible ne le dit pas, mais c'est facile à imaginer, n'est-ce pas? Quand l'eau il monte, on essaie de monter plus haut que l'eau, mais quand il n'y a plus de hauteur, hein, voilà. Et beaucoup, ils ont frappé à la porte. Noé, ouvre-nous! C'est Dieu qui a fermé. On ne peut plus rentrer. Donc, si on... comment éviter cette terrible colère de Dieu? Jésus-Christ nous le dit dans Jean 5, 24. Ça, c'est un verset que vous devriez apprendre par cœur. Car c'est notre assurance. Mais comment, nous qui sommes des pécheurs, des gens jugés, des gens condamnés, pour ne pas tomber dans ce jugement? Et il nous a dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, car... On doit tous mourir, mais après la mort, vient le jugement. Mais si on veut éviter le jugement, il faut accepter Jésus-Christ. C'est lui qui écoute ce que Jésus a dit, qui le met en pratique. Il a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. Pourquoi? Parce que Jésus, il a pris sur lui ce jugement. Il dit, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce qui doit avoir la première place dans notre vie. Savoir, est-ce que je suis à Jésus-Christ ou pas? Car encore une fois, personne ne sait quand il viendra. Il y a Amos qui nous dit un verset, c'est merveilleux. Il nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Et la seule façon de rencontrer Dieu, c'est d'avoir nos péchés pardonnés. Heureux l'homme auquel Dieu pardonne les péchés. Parce que là, oui, on est prêt à rencontrer Dieu. Mais si Jésus n'est pas dans notre vie, nous avons notre péché. Que le Seigneur il nous dirige dans cette réflexion. Et si nous l'avons, le Seigneur, dans notre cœur, amen, alléluia. Mais si on n'a pas le Seigneur Jésus, réfléchissez à cela. Parce que la vie, elle n'est pas indéterminée. Hein. Il peut s'arrêter n'importe quand, hein. Même en sortant d'ici, ou même ici. Hein. Mais c'est ce qui compte, c'est dire, je suis prêt. Sommes-nous prêts? Amen.